Rassemblement de MJC. Bazar sonore. Place Jean Jaurès. Ok, bah. C'est quoi tout ce monde? Bon, il y a beaucoup de couleurs. Ça vient de partout. Toute la France. Ok. Et ça se passe où? Et c'est quoi? C'est le bazar sonore. Jean Jaurès. Place Jean Jaurès, Saint-Étienne.
Radio Dio 89.5 FM, on est toujours en direct de la place Jean Jaurès pour la troisième partie de cette émission Marathon des Bazars Sonores. N'hésitez pas à venir nous rejoindre ici. On va parler à présent de pauvreté, richesse et classe sociale en compagnie de Noémie, Jade et Kismé. Bonjour à vous.
Bonjour, merci de nous accueillir sur Radio Dio. On va parler principalement sur les dominations et l'inégalité sociale. Nous sommes les jeunes de la MJC du Plateau en Bretagne à Saint-Brieuc. Donc nous allons commencer le quiz. Mais juste avant, j'aimerais vous donner une information qui pourra vous aider pour ce quiz. Il faut savoir que le nombre d'habitants en France est de 67 millions. Ça vous aidera à répondre aux questions pour après. Donc pour ce quiz, nous avons Jean-Luc et Raphaël pour répondre à nos questions. Vous êtes prêts ?
Tout à fait.
Ok. D'accord, première question.
Savez-vous 1-2-1-2. C'est bon. Savez-vous combien y a-t-il de milliardaires en France?
Aucune idée. Une quarantaine. Aucune idée.
Aucune idée.
Vous avez aucune idée?
Non. Je fais confiance à Raphaël.
40. Une quarantaine. Il y a 43 milliardaires français, moins d'une dizaine sont des femmes. Donc ça fait 4 à peu près.
On ne sait pas si vous applaudissez la réponse ou le fait qu'il y ait...
Non, on applaudit la méritocratie.
Est-ce que vous trouvez ça normal qu'il y a plus de hommes qui sont riches que de femmes?
Je ne sais pas ce que c'est la normalité. Est-ce que c'est juste ou pas juste? Je n'en sais rien. C'est le produit d'une histoire. Dans la question, est-ce que c'est normal qu'il y ait des gens très riches et des gens très pauvres? Alors ça, oui, je trouverais que c'est plus là que je mets, moi, le problème.
Voilà. Ok, d'accord.
Raphaël, il voulait répondre aussi.
Ah non, je dirais pas mieux que toi. Effectivement, le problème, c'est pas qu'il y ait que plus de femmes, plus d'hommes que de femmes... riches, le problème c'est qu'il y a plutôt énormément de riches aujourd'hui dans ce pays qui sont de plus en plus riches. C'est plutôt là la question.
Ok, d'accord. Du coup, deuxième question, la France est classée combien parmi les pays les plus riches du monde? Il faut savoir qu'il y a 195 pays.
C'est la 7e puissance.
Toi, tu t'es renseigné, t'es un tricheur. T'as triché.
Il a eu les questions avant même.
Il a triché.
Bah, c'est ça. Voilà.
On applaudit Raphaël.
Bravo, du premier coup.
Quel est le PIB nominal de la France?
Qu'est-ce que le PIB? Si c'est le produit intérieur du bonheur, je n'en sais rien. Si c'est le produit intérieur brut, je n'en sais rien non plus. Mais il est élevé par rapport à beaucoup d'autres pays, en tout cas. Il est beaucoup trop élevé par rapport à beaucoup d'autres pays. Hein.
On est à plus de 2000 milliards, un truc dans ce style. Mais tu triches. Après, ça dépend si c'est en euros ou en dollars.
Tu triches. C'est en milliards de dollars.
Enfin. 2 940 milliards de dollars. Ah,
Est-ce que ça vous choque ou pas? Vous trouvez ça beaucoup
Non, en soi, c'est pas un problème que le pays soit si riche. Le problème, c'est la question de la répartition, en fait. Et là, aujourd'hui, c'est que c'est concentré dans une poignée de personnes et qu'il n'est pas réparti d'une manière équitable sur le pays. C'est, il est plutôt là, le problème.
Moi, je ne serais pas tout à fait d'accord avec Raphaël. Ce qui pose problème, c'est au niveau international, qui est des pays qui est un PIB, je ne sais pas comment est calculé le PIB et tout ça, mais qui soit très très pauvre, très très bas, et qu'il y ait plein de gens dans le monde qui n'aient pas à manger, alors que nous, on a trop à manger, sûrement. Oui. Et ça, c'est un autre problème.
C'est pour ça que je parle de répartition.
J'ai compris répartition à l'interne.
À l'interne et également à l'externe.
Oui, voilà. On est d'accord, en soi.
Ok, donc prochaine question, justement, ça va parler un peu de l'alimentation. Combien y a-t-il de personnes qui bénéficient de l'aide alimentaire en France? Est-ce que vous savez
Ça a explosé avec la crise du coronavirus et on a dépassé les 2 millions.
La réponse est encore juste. donc en fait, selon les banques alimentaires, 2 millions de personnes bénéficient de l'aide alimentaire en France. C'est ça, exactement. Ok, donc prochaine question.
Attendez. Elle est là, elle est là. Combien de personnes vivent sous le seuil de la pauvreté, ouais, de la pauvreté en France? C'est-à-dire moins de 1100 euros par mois. Oh.
C'est pas moins de... C'est moins de 5 millions? Un peu moins de 5 millions?
Non, encore un peu plus.
Ouais. Moins de 7 millions.
On a juste la réponse en 2019, on n'a pas trouvé plus récent. En 2019, il y avait 9,2 millions de personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté.
On est resté à 9.
C'est ça. Du coup, savez-vous combien y a-t-il de pertes et de gaspillages alimentaires en France?
Trop. Beaucoup trop.
Par an et en plus en tonnes.
C'est indécent de le dire.
Je sais pas, c'est...
C'est énorme. Il faut savoir, c'est vraiment énorme.
C'est
en millions. Ah.
Millions de tonnes
par an.
10 millions de tonnes. 9.
10 millions de tonnes.
Millions.
C'est ça. Ouais.
Ouais.
C'est ça.
Ouais.
On dirait qu'il y a une personne avec qui il faut être si on fait un jeu télévisé quand même.
Ouais. Il gagne tout.
Mais à mon avis, ça sent la triche.
On va passer à l'autre question. Savez-vous combien y a-t-il de personnes sans domicile fixe?
En France.
Joker, j'appelle Raphaël.
Vous êtes aux alentours de 500 000?
Non.
Ah, t'es pas loin.
Moins en plus.
Jean-Luc, vous avez une proposition?
700 000?
Non, beaucoup moins. Beaucoup moins.
Bon. Bah, 400? Un petit peu moins. 300?
Voilà, t'as trouvé, c'est bon. Et parmi les 300, parmi les 4,1 millions de Français mal logés, il n'y en a que 300 000 qui sont sans domicile fixe.
C'est 300 000 de trop et c'est surtout 4 millions de mal logés de trop, en fait.
C'est ça. Savez-vous quel est le montant du RSA pour un SDF?
Ouais, le RSA en France, il est à 570 euros, quelque chose dans ce style.
Tu t'es trompé.
Jean-Luc?
À peu près pareil, mais encore faut-il que le SDF ait les moyens de demander le RSA,
parce que
tous ne touchent pas. Et là, c'est un
peu
plus compliqué.
Pas universel, parce qu'il faut attendre 25 ans pour l'avoir déjà.
Et donc.
Et puis 500 des pépettes, j'ai pas le chiffre exact en tête. C'est
ça permet de faire la manche dans la rue.
Voilà. Enfin, c'est insuffisant pour vivre aujourd'hui dans ce pays.
Bah,
D'autant plus dans les grandes villes.
La réponse, c'est 575,52 centimes pour une personne seule vivant en métropole. Donc, c'est pas énorme, quoi. C'est pas beaucoup.
Du coup, là, on va passer à la musique.
Et tous ne le touchent pas. D'accord.
C'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui ne touchent pas le RSA.
Oui. Okay, c'est vrai qu'il faut aussi compter les personnes qui n'ont pas accès aux droits aujourd'hui, en fait. Qui est globalement un véritable scandale dans ce pays. Sur le fait notamment du RSA, tous les droits sociaux, où les gens ne font pas appel aux droits sociaux qu'ils pourraient en fait bénéficier. Soit par des entraves liées notamment aujourd'hui à la digitalisation des services publics, ce genre de choses, mais aussi juste parce qu'ils n'ont pas nécessairement aussi soit l'information ou ils ne sont pas accompagnés pour avoir accès à leurs droits en fait. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, ces chiffres qui sont déjà énormes, si tout le monde y avait accès à juste titre, ben ces chiffres pourraient être encore plus importants en fait.
Là, du coup, on va passer à la petite musique.
Merci d'avoir participé avec nous.
Merci à vous et bonne continuation.
C'est Raphaël qui a gagné. 5-0.
Merci pour ce quiz. Ouais. On va retrouver la voix de Marc Namour dans La Canaille avec le titre Omar tout de suite sur le 895. Canaille intitulé Omar et Marc Namour en plein slam. On reprend le direct de Bazar Sonore 89.5 sur Radio Dio en direct de la place Jean Jaurès et on continue sur la thématique des classes sociales avec une interview menée collectivement.
Donc on continue, donc nous allons accueillir Charlie.
Bonjour.
Donc Charlie, es-tu prêt?
Oui, je crois.
Alors peux-tu te présenter?
Alors, je m'appelle Charlie, je suis doctorant, ça veut dire que je prépare une thèse en sociologie. C'est de la sociologie de la jeunesse et de l'action publique sur quoi je travaille. Et je suis employé par l'association départementale des MJC de la Loire, qui est basée sur la ville de Feurs, donc dans la Loire.
D'accord.
Peux-tu nous parler un peu de Saint-Étienne ?
Oui, j'ai grandi dans cette ville. Alors, je ne sais pas ce que vous aimeriez savoir à propos de Saint-Étienne, sinon que c'est une ville qui reste... Enfin, moi, je l'ai connue en tant qu'étudiant. J'ai trouvé que c'était une ville étudiante très chouette, très abordable aussi. Je sais que dans d'autres villes étudiantes, le niveau de vie, c'est pas le même qu'à Saint-Étienne. Quoi dire d'autre ? Il y a une vie culturelle aussi qui est intéressante à Saint-Étienne. On a beaucoup de salles de concert, avec aussi des salles indépendantes qui proposent à la fois du cinéma indépendant, de la musique indépendante. Et voilà, on s'y sent plutôt bien dans cette ville.
Ok, d'accord. Prochaine question. Est-ce que tu sais quels sont les différents types d'inégalités ?
D'inégalités ?
C'est ça.
Alors oui, on ne pourra pas faire une liste exhaustive de toutes les inégalités qui existent dans notre société. Pour ça, on a tendance à créer des catégories d'inégalités. On va parler d'inégalités sociales. Et alors, ce qui est intéressant à la limite de définir, c'est de se dire qu'une inégalité sociale, c'est pour des individus d'avoir des différences d'accès aux ressources qui sont socialement valorisées, comme par exemple les savoirs scolaires ou certains diplômes. Je vous parle de ça parce que je suis issu d'un cursus de sciences de l'éducation, donc c'est un peu le monde où j'y connais un peu plus de choses. Mais voilà, il y a tout un tas de ressources valorisables dans l'espace social. Et une inégalité sociale, c'est la question de l'accès à ces ressources-là. Et il y en a de plein de natures différentes. Il y a les inégalités sociales scolaires qu'on vit dans le monde scolaire. Il y a des inégalités sociales qu'on vit aussi dans le monde de la santé. On appelle ça les inégalités de santé. Voilà, ce serait des échantillons d'inégalités sociales qui peuvent exister.
Du coup, merci Charlie pour ces renseignements que je ne connaissais pas déjà, c'est déjà bien. Et pour toi, laquelle inégalité est la plus répandue et pourquoi dans la France, en France ?
C'est une très bonne question. Laquelle est la plus répandue ? Est-ce que ça veut dire que c'est celle qui serait vécue par le plus de personnes ?
Oui, c'est ça.
Ok. Spontanément, j'aurais tendance à parler des inégalités sociales de genre qui concernent finalement les femmes, les hommes et aussi les personnes non genrées. Au sens où, tout simplement, ça concerne la totalité de la population française, soit les 66 ou 67 millions que nous sommes, et la part notamment des femmes qui vivent dans cette société-là. Spontanément, je répondrai ça.
En quelques phrases, peux-tu nous en dire plus sur les capitaux ?
Les capitaux, c'est quelque chose qui a été popularisé dans les années 80, si je ne dis pas de bêtises, par un monsieur qui s'appelle Pierre Bourdieu, qui était sociologue. Il a essayé, il me semble lui, de définir quatre grands types de capitaux. Le premier, le plus connu, c'est le capital économique qu'on a en tant qu'individu et individu socialisé dans une famille. On va parler de ressources financières, bien entendu, mais aussi de patrimoine. Est-ce que, par exemple, votre famille a des terres ? Est-ce que, par exemple, votre famille peut avoir des passifs qui représentent un patrimoine, donc de l'argent, finalement ? Il y a le capital social. Le capital social, c'est les réseaux qu'on a en étant socialisé dans notre famille et dans nos réseaux sociaux aussi par ailleurs. Par exemple, on n'a pas tous le même capital social. Si, par exemple, je connais beaucoup de médecins ou d'avocats, je n'aurai pas la même facilité d'obtenir certaines ressources par mes réseaux sociaux que si mes amis, par exemple, ou mes parents sont artisans. Voilà. Ça, c'est une autre forme de capital. La troisième forme de capital, c'est le capital culturel. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que, par exemple, il y a des formes et des pratiques culturelles qui sont plus valorisées que d'autres dans notre société. Et en fait, c'est à cet endroit-là que ça présente un certain nombre de ressources qui sont valorisables ou pas socialement. Le dernier et le plus grand, j'ai envie de dire, c'est le capital symbolique. Qui, dans les champs dans lesquels on est dans la société, sont plus ou moins forts et valorisables. On peut parler d'un capital artistique, on peut parler d'un capital religieux, par exemple. C'est des espaces où on peut mobiliser des ressources qui sont plus ou moins socialement valorisées. Il y en a un autre qui a été théorisé il n'y a pas très longtemps et qui appartient au capital symbolique, qui se décline, comme je l'ai dit tout à l'heure, religieux, artistique, etc., dans plein de, de familles différentes, c'est ce qu'on appelle le capital d'autochtonie. Tout à l'heure, vous parliez des quartiers, par exemple. Le capital d'autochtonie est un capital symbolique qui est intéressant à prendre en compte parce que c'est les relations sociales qu'on a pu tisser dans l'espace où on vit au quotidien et qu'on peut mobiliser, du coup.
Charlie, merci. D'après toi, qu'est-ce que c'est l'idéal de la méritocratie ? Méritocratie.
L'idéal de la méritocratie, il pourrait être résumé dans cette phrase très connue, quand on veut, on peut. Et en gros, la méritocratie, c'est cette idée que à partir du moment où on travaille, eh bien, on obtient ce qu'on veut. C'est une notion qui est très à la mode, entre guillemets, ou en tout cas qui est portée par, il me semble, les politiques publiques scolaires. C'est cette idée que l'école, même si ça peut être remis en question comme postulat, donne les mêmes chances à tout le monde. Et donc à cet endroit, on serait sur un pied d'égalité, mais j'insiste, j'utilise le conditionnel parce que tout le monde n'est pas sur le même pied d'égalité face à l'école. Mais cet idéal de méritocratie, c'est que tout le monde, à l'école par exemple, peut travailler pour obtenir ce qu'il veut. Pierre Bourdieu, dont je parlais tout à l'heure, est quelqu'un qui a mis un gros coup de pied dans cet idéal-là, parce qu'il faisait partie de ces quelques personnes qui, issues de classes populaires, ont baigné dans cet idéal de méritocratie, il me semble, et qui sont arrivées à des positions sociales qui sont plus hautes que celles de laquelle il partait à la base.
D'accord, merci Charlie pour cette réponse. Donc les questions sont finies. Merci d'avoir participé.
Avec plaisir, merci de m'avoir invité.
De rien.
Et merci d'avoir convoqué un petit peu toutes ces questions pour expliquer un petit peu ce que c'est finalement la sociologie. Vous avez préparé un micro-trottoir à présent. Qui est-ce qui peut en parler un petit peu? Qu'est-ce qu'on va écouter là?
Nous avons été dans la rue interviewer des gens sur des questions qu'on ne savait pas. En fait, on voulait avoir les réponses. Du coup, on a interviewé des gens dans la rue et on a eu énormément de réponses. Et voilà, on va pouvoir écouter.
On nous a dit que Saint-Étienne, c'était la campagne. Deux fois.
Allez, on écoute ça tout de suite.
Nous, en fait, on vient de Saint-Brieuc, la MJC de Saint-Brieuc. Du coup, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à Saint-Étienne ?
Oh, bah, c'est une ville où il fait bon vivre, où la plupart des gens sont quand même sympas. On n'est pas loin de la campagne. C'est un endroit qui est plutôt agréable si on compare à des très grandes villes comme Lyon ou à des tout petits villages où il n'y a pas grand-chose à faire. Ouais. Donc, on est plutôt bien à Saint-Étienne, je trouve, dans l'ensemble.
Moi, j'aime beaucoup Saint-Étienne. Je ne viens pas de Saint-Étienne à la base. Mm-hmm. Je me suis installée ici il y a 3 ans. Mm-hmm. Et je suis très contente d'être ici. C'est une très belle ville. Les gens sont très accueillants. C'est ça ce que j'ai trouvé principalement en arrivant ici. Voilà, il y a plein de choses à découvrir. Je sais que c'est une ville qui n'a pas forcément très bonne réputation à l'extérieur, mais c'est vraiment une ville à découvrir. Et voilà, moi, l'accueil que j'ai eu ici quand je suis arrivée, j'ai jamais eu ailleurs. Voilà, c'est une ville que je conseille.
Ok.
Ouais, j'aime beaucoup Saint-Étienne parce que Saint-Étienne, c'est calme, pas trop de bruit. J'ai l'accueil tout le monde parce que moi, je vois les jeunes de Saint-Étienne, tout le monde est gentil. Et ils ne sont pas trop agressifs. Mmh. Ils aiment beaucoup rester parce que c'est calme en fait. J'aime beaucoup.
Moi j'aime bien la culture.
Ok.
Scène musicale, des actions qui mènent contre certaines oppressions. Du coup, ça brasse pas mal de gens, pas mal de collectifs. D'ailleurs, il y en a qui travaillent aussi à Radio Jo. Il y a la France Plus, l'émission La France Plus, basée sur le punk. Il y a d'autres émissions aussi. Super intéressante.
Ouais, je suis assez d'accord. À Saint-Étienne, c'est une ville cosmopolite déjà, ça c'est cool, il y a un gros mélange de cultures. Et ouais, c'est une ville avec un gros bagage associatif. Donc,
c'est pas fier comme à Lyon, hein. C'est une ville ouvrière, d'accord. Mm-hmm. Mais c'est drôlement bien. Enfin, moi je trouve que c'est bien parce que j'ai vécu à Lyon,
pas la même chose.
Oh, oui, c'est fier.
D'accord. Trouvez-vous que la justice est assez juste pour les personnes qui ont du pouvoir? Par exemple, les hommes de politique, ceux qui sont riches, est-ce que vous trouvez qu'ils sont assez justes?
Est-ce qu'elle est égale entre les c'est différentes ça. Classes? Je ne trouve pas, non. Je trouve que justement, il y a des traitements différents selon le milieu dont on vient. Et en effet, j'ai quand même l'impression que quand on est dans une classe sociale privilégiée, la justice est peut-être moins dure que pour des classes sociales moins favorisées, on va dire. Voilà.
Vous savez, le pognon, comme on dit, ça compte encore. Hein.
C'est ça.
Hein, ils ont fait la révolution, les anciens, mais on peut la recommencer. Hein.
Par exemple, si toi, tu es une pauvre, les gens qui sont riches, tu as un problème avec les gens, là, et tu pars à la justice, on dit, ouais, nous, on ne sait pas, parce qu'il ne sait pas, et quoi, on te dit les choses qu'on ne comprend pas, quoi.
Ouais. Ouais.
Ça, c'est une question qui n'est pas évidente parce que on peut difficilement remettre en cause l'impartialité de la justice en France. On doit croire que nos juges font leur boulot. Après, ce qui est sûr, c'est que d'avoir des revenus importants donne accès à des moyens, notamment de défense en termes d'avocats, qui ne sont pas les mêmes que ceux que nous, on peut avoir. Je pense que la différence, elle est surtout à ce niveau-là. Parce qu'après, c'est la même justice pour tout le monde. Mais par contre, on n'a pas les mêmes moyens pour se défendre, ça c'est clair.
La justice, ça sert le pouvoir. Du coup, vu qu'on est dans un environnement capitaliste, du coup, ça donne des avantages aux plus riches.
Ouais, et aux hommes aussi, parce qu'on est quand même dans une société hyper patriarcale, donc faut pas oublier que la justice, normalement, elle a des outils pour défendre, mais les minorités, et notamment les femmes, galèrent quand même plus que les hommes. Faut avouer que la justice pourrait être juste, mais non, elle n'est pas forcément. Moi, je pense qu'il faudrait s'en méfier aussi, quoi, en fait. Voilà.
Comment lutter contre l'inégalité ?
Contre les inégalités ?
C'est ça.
Waouh ! ça va être. Plein de choses, il va y avoir les lois déjà qui doivent garantir un socle d'égalité à tout le monde. Et puis après, ça va être aussi dans le comportement qu'on pourra tous avoir au quotidien. Je pense que c'est déjà d'avoir du respect, de la compréhension, de l'écoute pour tout le monde. C'est aussi une façon de lutter contre les inégalités ou en tout cas de faire en sorte que chacun soit écouté et pas dénigré à minima. Parce qu'on ne peut pas lutter contre les inégalités de façon générale, mais on peut essayer de faire en sorte, nous au quotidien déjà, d'être juste dans notre façon de faire avec tout le monde. C'est déjà pas mal.
Y a du boulot, hein.
Ouais.
On est arriéré là-dessus, hein.
Il y a encore du progrès à faire.
Oula, oui. Plus que du progrès même, hein, parce que là, quand vous regardez autour de vous, hein, oui. Vous en avez qui travaillent bien et tout, et c'est pour ça qu'ils vivent mieux. Hein. Oui. Et il y en a qui foutent rien, ou presque.
Mais ils ont la même chose que ceux qui travaillent.
Oh.
Il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup qui sont aisés, hein, faut pas croire. Hein.
Moi je pense que tout le monde doit être égalité et fraternité, mais ce que les gens disaient dans la loi, c'est pas ça qu'on voit des fois, quoi.
Ok.
Ouais.
Il faut détruire le capitalisme et puis sortir du patriarcat.
Il faut soutenir les organisations qui luttent contre les injustices, que ce soit économique, sociale, de genre. Tout ce qui est manif, tout ce qui est action, soutien, solidarité, il faut les supporter. Quoi.
C'est une question très difficile, je pense, que beaucoup de gens se posent. Peut-être en écoutant des gens les revendications qu'ont les gens qui ont moins de privilèges à la base, voilà, en voyant ce qu'ils demandent, ça peut passer par la société, enfin justement la justice, ça peut passer par l'économie, il y a plein de biais, ça peut passer par le droit également. Après, c'est une question très complexe, mais je pense que déjà, voilà, peut-être écouter plus ceux qui n'ont pas le droit à la parole à la base, ça peut être une piste pour commencer un début de solution. Win.
C'est le bazar sonore à Saint-Étienne, place Jean Jaurès, sur Radio Duo 89.9.
Genre toutes les MJC.
C'est bon, ça suffit.
895 Radio Dio, petit jingle produit pendant ces 4 jours. Je voulais revenir un petit peu sur le micro-trottoir qu'on vient d'entendre, réalisé donc par Noémie, Jade et Kismé. Est-ce que c'est la première fois que vous réalisiez un micro-trottoir déjà ?
Pour moi, oui, j'avais jamais fait ça.
Moi, j'avais déjà essayé, mais c'est tout.
Pour ma part aussi, c'est une première fois.
Alors, qu'est-ce que ça vous a fait d'aller... ça fait peur quand même, la première fois. Moi, je trouve qu'on va voir des gens pour leur poser des questions. Comment vous avez combattu le stress un peu du départ ?
C'est vrai que c'est très intimidant, mais en fait, quand on y va vers la personne, le stress, il redescend, tu poses des questions. Et tu vois que... Après, ça dépend. Il y a des personnes, t'es pas très à l'aise. Par exemple, moi, je sais que avec des jeunes, je serais pas très à l'aise. Donc moi, à chaque fois, un micro-trottoir, je préférais aller voir plus les personnes... âgés, parce que je sais qu'avec eux, je suis plus à l'aise, tout simplement.
1, 2, voilà, c'est bon, ça marche. Du coup, moi, je peux dire une seule bonne chose sur Saint-Étienne, c'est que ces gens de Saint-Étienne sont très sympas, bien.
Ça plaît, ça, toujours. Voilà. Et est-ce que vous avez été surpris et surprise par les réponses que vous avez obtenues à vos questions ?
Non, parce que je savais que c'était la campagne, de toute façon.
Tu viens d'où toi déjà là ?
C'est pas pareil.
Non, pour moi non plus, j'ai pas été.
Aucune surprise. Non, vous aviez tout prévu quoi. Pas d'inattendu, la vie s'est calculée d'avance.
Non, personnellement, moi non. Après, je sais pas, Jade.
Moi non plus.
Ok. Bon, écoutez, alors vous maîtrisez complètement la destinée de vos micro-trottoirs, c'est top. On enchaîne avec une espèce de forme débat, échange d'idées un petit peu. Vous avez sélectionné une question et invité de brillants animateurs qui se sont déjà illustrés sur cette antenne.
C'est ça, donc nous avons Abou et Elodie. Donc, on va vous poser une question. Pour vous, quelles pourraient être les solutions pour qu'il n'y ait plus d'inégalité ?
Je t'en prie, Nadji. Je dirais, excuse-moi, tu peux répéter là, quelles sont les solutions pour qu'il n'y ait plus d'inégalité ? Les solutions, je ne pense pas avoir des solutions, mais des idées. Voilà, à la place d'égalité, ça devrait être équité. Et je pense que si on aurait tous le même salaire... Je pense que déjà de ce côté-là, je pense qu'on peut réduire déjà l'écart de l'inégalité. Pardon. Et du coup, voilà, moi, ça fait partie des idées. Après, Abou, peut-être en a d'autres. Ou Kismé, vas-y.
Oui, tu veux mettre les salaires au même point, mais personne ne travaille du même pareil.
C'est vrai que personne ne travaille de... En tout cas, ne peut-être pas mettre le même salaire à tout le monde, mais mettre un maximum de salaire. Ça serait déjà quelque chose de positif, je pense. Un maximum, voilà. C'est pas l'autre, il va toucher 1300 euros. L'autre, il peut aller toucher jusqu'à 17 000 euros le mois. Tu vois, ce que l'autre, il va même pas prendre dans l'année. Je trouve que c'est, voilà, avec des différences comme ça, c'est ce qui crée l'inégalité. Voilà, parce que souvent, les petits, comme on dit, les petits boulots, souvent les petits boulots où nous avons tous besoin... Où même des riches vont faire leurs courses, que ça soit dans des supermarchés, n'importe. Voilà, ceux qui travaillent dans les rayons, qui mettent à disposition tous nos besoins précaires, comme ça, je sais pas moi, comme des pâtes, de l'eau, etc. Il y en a, ils font de la mise en stock, ils mettent des choses en place, etc. Ils vont toucher peut-être 1200 euros, 1300 le SMIC au maximum. Et il y en a d'autres, ils vont venir pour faire leurs courses, mais ils auront un budget beaucoup plus large. Mais faut voir derrière tout le travail qui a été fait. Du coup, si on rééquilibre un peu plus les salaires, je pense que ça pourrait être pas mal, quoi.
Moi, pour réduire les inégalités, déjà, je commencerai par écouter les gens. On ne peut pas régler les problèmes de ceux dont on ne connaît pas les problèmes. Donc déjà, commencer par écouter les gens, parce que l'inégalité, en fait, c'est un fléau. On ne s'en rend pas compte, mais c'est un peu le poison, je pense, de la société. C'est parce que c'est l'inégalité qui nous pousse un peu à se haïr les uns les autres. C'est l'inégalité qui pousse... après, là, je vais parler un peu de mes convictions politiques à moi, mais c'est l'inégalité, pardon, qui nous pousse à voter pour certains partis plus que d'autres. C'est l'inégalité qui nous pousse à penser que certains viennent voler notre travail ou quoi. Donc moi je pense que le plus important déjà c'est que qu'on nous écoute en fait, qu'on prenne le temps de nous écouter, de savoir quels sont nos problèmes et à partir de là on pourrait commencer à réduire les inégalités. Mais là nous demander comment réduire les inégalités, il y a tellement d'inégalités dans la société que je pourrais même pas vous dire comment faire. Mais déjà commencer par nous écouter, c'est important.
Ouais, bah franchement, quand j'ai envie de te dire, bah souvent ce qui ressort beaucoup maintenant aujourd'hui, vous voyez bien, il y en a qui font des arnaques avec, il y a des influenceurs qui font des arnaques, qui gagnent je ne sais combien par mois, ou même d'autres qui ne font pas spécialement d'arnaque, mais ils font juste de la pub, de la publicité, où ils se filment, ils filment juste leur quotidien, ils peuvent aller toucher beaucoup plus, voire 5, voire 10 fois plus qu'un médecin qui fait des journées entières et des nuits entières à travailler pour les soins médicaux de tout le monde. Je trouve pas ça très juste, quoi, tu vois. Et à ce moment-là, les inégalités se créent.